Europe 1.
Et si on partait ?
Philippe Googler.
Et si on partait tous les soirs, toutes les après-midi, pardon, j'ai toujours du mal avec le soir et l'après-midi, sur Europe 1, nous voyageons, nous sommes au Groenland avec Nicolas Dubreuil, aventurier, spécialiste des expéditions polaires, et puis avec Olivier Pouls, qui va-t-il relever le challenge ? Va-t-il réussir à nous parler gastronomie au Groenland ?
Bah, gastronomie, j'en sais rien les amis, mais c'est vrai que là, accrochez vos estomacs parce que ça va tanguer.
Il va y avoir du poisson.
Il va y avoir de la viande, mais oui, vous imaginez bien que dans un pays dans lequel les températures sont comprises entre 0 et moins 35 ou moins 40 degrés, on a besoin de prendre... un petit peu de force, on a besoin de calories, de beaucoup de calories. Et donc, c'est vrai que c'est une nourriture qui est pour le moins riche.
Autant qu'en Franche-Comté ?
Oui, même un peu plus. Et puis, surtout, on joue aussi avec les contraintes de la nature, puisque sur la glace, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Mm-hmm. Donc, ce qu'on mange en général, c'est ce qu'on trouve dans l'eau ou au-dessus de l'eau, c'est-à-dire les poissons ou la viande. Alors, essentiellement de la pêche, on l'a dit tout à l'heure, avec le beluga par exemple, avec des caplans qui sont des petits poissons. La chasse, c'est la chasse aux rennes qu'on pratique énormément. Et puis, la chasse aux phoques également, qui est largement pratiquée. La viande de phoque, qui est une viande assez courue là-bas.
Extrêmement répandue. Bien, on fait tout avec le phoque là-bas, on fait des vêtements aussi. C'est un peu comme les bœufs chez nous, presque.
Oui, alors on la mange crue, on la mange cuite, on utilise la graisse, on fait des préparations. Il paraît que c'est très bon. Hein. J'avoue que je ne l'ai jamais goûté, mais il paraît que c'est très bon.
Nathalie, je vous vois faire la grimace.
Mais non, mais parce qu'on a tout de suite l'image de Brigitte Bardot, des bébés phoques sur la banquise et des massacres, enfin de ces images dramatiques. Et en fait, je pense qu'on ne comprend pas, nous, que tout simplement, c'est leur survie à eux, en fait.
Bien évidemment, il n'y a pas le choix et croyez-moi, ils ont besoin d'en manger.
Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez de cet éternel débat autour des phoques ?
Ben, je pense qu'il est dramatique, hein, quoi. C'est été dramatique parce que ce qui a été associé, c'est l'image des massacres de bébés phoques dans le golfe du Saint-Laurent, et avec la chasse traditionnelle groenlandaise où t'as pas le choix, hein, c'est ce que disait Julien. T'habites à Couche-l'Orsoir, si tu manges pas du phoque, tu ne manges rien. Et en plus, bon, le phoque c'est très bon, etc. Là, je vous entendais parler culinairement parlant, c'est assez drôle d'ailleurs. C'est là où on sent l'importance justement du milieu autour de nous. C'est-à-dire que forcément, là ici en France, un foie de phoque cru, je sais pas si ça passe,
hein.
Mais là-bas sur la banquise, oui, c'est très très bon. Et le corps en redemande du gras de baleine, là, le derme de la baleine, on redemande de ça.
Mais là,
ce qu'a fait Brigitte Bardot et tout ça, ça a été un drame.
On va pas tuer des baleines.
Bon, pardon, on n'en tue plus beaucoup. Je pense qu'il y a des autorisations des tout petits quotas.
Le narval, le beluga, c'est des baleines à dents. Hein. La corne du narval, c'est sa dent, son incisive gauche. Donc on chasse encore des baleines, mais comme vous disiez, il y a 57 000 habitants. Ils en chassent pas des masses. Et puis un narval, c'est très compliqué à chasser.
Alors, on peut vous développer un petit peu cette délicieuse gastronomie.
Oui, alors, sur le phoque, par exemple, il faut non seulement le manger, mais surtout le conserver et l'utiliser tout au long de l'année. Alors, il y a une recette qui s'appelle le kiviak. Alors, accrochez-vous bien. Alors, donc, ça, c'est un phoque qu'on a tué, évidemment, qu'on a vidé. Et dedans, on l'a rempli avec des oiseaux. On a eux aussi chassé avec des oiseaux. On les met à l'intérieur. On évite qu'il y ait de l'air. On remplit avec de la graisse.
Vous êtes sûr qu'on ne met pas un peu de crapaud avec ?
Non, des oiseaux, on remplit avec de la graisse. On referme tout ça. Et puis, on laisse fermenter. Et ça fermente pendant plusieurs mois. Et après, on l'ouvre et on le mange.
Ouais. Mais on mangeait du phoque en France au Moyen-Âge, hein, je vous signale. Et on avait ce même process de remplir un animal avec d'autres animaux et le farcir comme ça. Non, c'était un truc vraiment classique chez nous.
Alors, il y a des choses plus faciles et plus abordables. Hein. Par exemple, le soisat, qui est un plat très traditionnel, que là, je pense, on pourra tous manger sans trop de difficultés, c'est une soupe. Donc là, c'est une soupe un peu revigorante avec du riz, des oignons cuits longtemps et de la viande, en l'occurrence parfois de la viande de phoque. Mais ce que je veux demander à notre interlocuteur, c'est est-ce qu'on trouve beaucoup de restaurants finalement ? Est-ce qu'on va au restaurant quand on est là-bas au Groenland ?
Nicolas ?
Ben, en fait, ça dépend un peu où on est. Dans des grandes villes comme Ilulissat, il y a quelques restaurants, il y a une nourriture qui est très, je dirais, occidentalisée, danoise. Et après, si on veut manger traditionnel, ben c'est plus en famille. Mais après, par exemple, moi j'ai un ami là qui, j'ai mangé chez lui il y a pas longtemps, et on mangeait du phoque et avec des frites. C'est la première fois que je mangeais du phoque.
Un steak de phoque.
En fait, il m'a dit, si je fais pas de frites, mes enfants veulent plus manger de phoque. Et pour lui, c'était tellement important que ses enfants mangent du phoque qu'il y a maintenant, il cuisine toujours son phoque avec des frites.
Ouais. Et les légumes, comment vous faites? Parce qu'il n'y a pas de légumes qui poussent là-bas.
Non, mais en fait, il y a plein de techniques. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, on va manger des intestins d'animaux, de perdrix, qui ont mangé, elles, du lichen, etc. Et donc, ils vont avoir quelques éléments dont on a besoin. Et puis après, on va trouver tous les nutriments dans la peau de la baleine, dans le gras de la baleine. C'est pour ça qu'il faut qu'ils mangent de la baleine, parce que c'est là où ils vont trouver tous les éléments que nous, on trouve dans les carottes, dans les salades, etc. Eux, ils vont le trouver ailleurs. Et c'est pour ça qu'il doit avoir cette nourriture diversifiée.
Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Olivier. On continue l'aventure dans un instant.
Une tomate.
pas. Et un concombre.
Et on continuera d'un point de vue pratique parce que ça donne tellement envie d'y aller. Mais comment on fait pour y aller? Dans un instant, tous les détails avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet.